Quand Dieu dit non, la puissance cachée derrière le refus divin. Un livre de Yannis Gauthier. Introduction. Le choc du silence. Tu connais ce moment, tu l'as peut-être vécu ce matin même. Tu es à genoux, seul dans ta chambre, ou peut-être au volant de ta voiture, les mains crispées sur le volant. Tu es épuisé. Cela fait des semaines, des mois, peut-être même des années que tu pries pour cette chose précise. Tu as tout fait comme il faut. Tu as jeûné, tu as proclamé les versets, tu as gardé la foi quand tout le monde te disait d'abandonner. Tu as été fidèle dans les petites choses. Et pourtant, rien. Le ciel reste désespérément silencieux. Ou pire, la porte se ferme brutalement, violemment, devant ton nez. Le contrat est annulé à la dernière minute. La relation s'arrête sans explication. La guérison ne vient pas. Le visa est refusé. Le poste est donné à un autre. Cette question te hante, elle tourne en boucle dans ton esprit et t'empêche de dormir la nuit. Pourquoi ? Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné alors que je lui ai tout donné ? Pourquoi lui, il ne répond pas ? Tu regardes autour de toi. Tu vois des gens moins consacrés que toi. Des gens qui ne prient même pas, obtenir ce que tu désirais tant. Eux, ils avancent, eux, ils réussissent. Et toi, tu restes là avec ta déception, ton amertume et ce sentiment d'injustice qui commence à ronger ta foi comme un acide. Tu commences à douter de ton appel. Tu commences à douter de l'amour de Dieu. Arrête tout, respire un grand coup. Tu ne comprends pas encore le plan, mais tu es sur le point de découvrir l'un des secrets les plus puissants du leadership spirituel. Tu es à un carrefour décisif. Voici la vérité brutale qui va changer ta perspective et transformer ta douleur en puissance. Le nom de Dieu n'est pas un rejet, c'est une protection, une préparation et une redirection divine. Nous avons été conditionnés, dans nos églises et notre culture, à penser que la bénédiction ressemble toujours à un oui. Nous pensons que si Dieu nous aime, il nous donne ce que nous voulons. Mais dans l'économie du royaume, le refus est souvent l'ingrédient secret de l'excellence. Regarde ta Bible. Chaque grand leader, chaque géant de la foi a dû se heurter à un mur divin pour entrer dans sa véritable destinée. David voulait bâtir une maison pour Dieu, mais il a reçu un refus catégorique. Paul voulait être libéré de sa souffrance physique, mais le ciel a gardé les chardes. Jésus lui-même, dans l'angoisse de la mort, a demandé une autre issue et le Père a gardé le silence sur sa requête. Le refus de Dieu n'est pas une punition pour ton passé, c'est la préparation stratégique de ton futur leadership. Sans ce non douloureux, tu te contenterais de ce qui est simplement bon, au lieu d'obtenir ce qui est excellent. Sans cette porte fermée, tu resterais dans le confort, au lieu d'entrer dans le caractère. Avec cette compréhension claire, tu deviens inébranlable face à l'adversité. Isaïe chapitre 55, verset 8, le dit clairement, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Quand tu acceptes enfin que son refus est plus intelligent que ta requête, tu ne peux plus vivre la déception comme avant. Tu entres dans la dimension de la confiance absolue. Prépare-toi. Nous allons traverser trois histoires qui vont bouleverser ta vision de l'échec. Chapitre 1. David. Quand Dieu ferme une porte, il sécurise ton héritage. Regardons le roi David. Cet homme est une légende. Il a tué Goliath. Il a unifié les tribus. Il a étendu le royaume. Il avait tout pour lui. La puissance militaire, l'or en abondance et surtout un cœur qui battait pour Dieu. Nous sommes à un moment où David est au sommet de sa gloire. Il est assis dans son palais magnifique, fait de bois de cèdre précieux, importé à grands frais. Il regarde autour de lui, puis il regarde par la fenêtre vers l'Arche de l'Alliance. Et là, il a un pincement au cœur, un malaise saint. Il dit au prophète Nathan, « J'habite dans une maison de cèdre, et l'Arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » C'est dans 2 Samuel, chapitre 7. Son rêve était noble, son intention était pure. Il ne demandait pas plus d'argent ou de pouvoir, il voulait honorer Dieu. Il voulait construire le plus beau temple que la terre ait jamais porté. C'est le projet d'une vie. La plupart des conseillers spirituels auraient dit, « C'est une vision sainte. » Fonce David, Dieu est forcément avec toi dans ce projet car c'est pour sa gloire, mais Dieu va faire quelque chose de choquant. Il va dire, « Non, ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison. » 1 Chronique, chapitre 17. Imagine la frustration de David. C'est un adorateur passionné. Il a écrit les psaumes. Il joue de la harpe. Qui mieux que lui pour construire la maison de l'adoration ? Pourtant, Dieu lui rappelle son identité et sa saison. « Tu es un guerrier, tu as versé trop de sang, ce n'est pas ton onction, ce sera celle de ton fils, Salomon. » Voici le principe de leadership de David. « Ta bonne idée n'est pas toujours l'idée de Dieu. » Nous confondons souvent nos ambitions pieuses avec la volonté divine parfaite. David ne voyait que le bâtiment de pierre. Dieu voyait la lignée éternelle. David voulait construire un toit pour l'arche. Dieu voulait établir un trône pour l'éternité. Le refus de Dieu a empêché David de sortir de son couloir d'excellence. Si David avait forcé la porte, s'il avait ignoré le refus pour construire ce temple par orgueil, il aurait échoué. Il aurait produit quelque chose d'inférieur. Ou pire, il aurait désobéi et perdu l'onction. Mais regarde la réaction d'un vrai leader. David ne boude pas. Il ne fait pas une crise d'ego en disant « Seigneur, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me refuses ça ?» Au contraire, ce refus a permis à David de changer de stratégie immédiatement. Il a compris que son rôle n'était pas de bâtir, mais de préparer. Il a passé la fin de sa vie à amasser l'or, l'argent, le bronze, le fer et les plans pour que Salomon puisse réussir. Il n'a pas construit le bâtiment, mais il a financé la vision. Cette redirection a fait de lui l'homme qui a sécurisé Israël, permettant à la génération suivante de prospérer dans une paix qu'il n'avait jamais connue lui-même. Le problème avec la plupart d'entre nous, c'est que nous prenons le nom de Dieu pour un échec personnel. Nous pensons que Dieu nous punit. Non! Quand Dieu dit non à ton projet, il ne te demande pas d'arrêter de servir. Il te demande de réaligner ta mission. Il protège ton énergie pour ce pourquoi tu as réellement été oint. David a accepté le plan et Dieu lui a fait une promesse hallucinante. Non pas une maison de pierre, mais une maison dynastique. Ce nom apparent a transformé un simple projet de construction BTP en une alliance éternelle d'où sortira le Messie. Aujourd'hui, on parle du trône de David, pas du temple de David. Son obéissance dans la frustration a produit une gloire supérieure. Son humilité face au refus divin a défini son héritage. Si tu te braques, quand Dieu ferme une porte, tu perds ta paix et tu retardes ta saison. Si tu acceptes, tu entres dans le repos. Quelle porte Dieu ferme-t-il aujourd'hui pour te forcer à regarder vers une fenêtre plus grande qu'il est en train d'ouvrir ? Action immédiate, cette semaine, identifie un projet, une relation ou une prière où tu as ressenti un blocage persistant. Au lieu de forcer la serrure, écris sur un papier « Seigneur, j'accepte ton nom comme une protection divine ». Demande-lui quelle est la redirection qu'il prépare. Arrête de pleurer sur le temple que tu ne bâtiras pas et commence à préparer les matériaux pour la victoire qui vient. Chapitre 2. Paul. La puissance se révèle dans ce qui te manque. Passons au Nouveau Testament. L'apôtre Paul. Ce n'était pas juste un intellectuel, c'était un bulldozer spirituel. Il a implanté des églises dans tout le monde connu. Il a ressuscité des morts. Il a confronté des sorciers. Il a survécu au naufrage. Pourtant, cet homme de puissance a fait face à une limite brutale, intime et humiliante, une écharde dans la chair. Les théologiens débattent depuis des siècles. Était-ce une maladie des yeux, une persécution constante, une tentation, une dépression chronique ? Nous ne savons pas. Et c'est tant mieux, car cela nous permet à tous de nous identifier. Nous avons tous une écharde, ce truc qui nous colle à la peau, qui nous fait mal, qui nous ralentit, qui nous humilie. Paul a fait ce que tout bon croyant fait, il a prié, il a combattu. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 2 Corinthiens, chapitre 12. Note bien, il n'a pas juste demandé, il a supplié. Sa prière était légitime. Paul voulait être libre pour servir mieux. Il pensait logiquement, « Seigneur, si je n'avais pas ce problème, je pourrais voyager plus vite, prêcher plus fort, écrire plus, être plus efficace pour le royaume. » Il attendait une délivrance, il attendait un miracle, il attendait un grand « oui » retentissant. Mais le ciel a répondu par un refus qui a dû le choquer. Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Lise bien, Dieu n'a pas enlevé l'épreuve, il a ajouté la grâce. Voici le principe de leadership de Paul. Le refus de Dieu de changer tes circonstances est souvent une invitation à changer ta source de force. Paul a compris une vérité terrifiante et merveilleuse. Le non à sa guérison était un oui à une onction supérieure. Si Paul avait été totalement autosuffisant, s'il avait été parfait, brillant, en pleine santé, sans aucun problème, il aurait pris la gloire pour lui-même. L'orgueil l'aurait tué. La faiblesse l'a gardé dépendant. Et cette dépendance radicale a fait de lui l'homme qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. C'est là que Paul devient un géant. Il n'a pas subi sa faiblesse en se plaignant. Non, il a fait un pivot mental extraordinaire. Il a dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Il a transformé un obstacle en opportunité. Il a compris que son handicap était le lieu d'atterrissage, la piste d'atterrissage de la puissance de Dieu. Son attitude a changé la donne. Le leadership de Paul nous enseigne que Dieu dit parfois non à notre confort pour dire oui à notre caractère. Tu pries pour que Dieu enlève la montagne qui est devant toi. Peut-être que Dieu a décidé de ne pas bouger la montagne, mais de te donner des muscles pour l'escalader. Tu pries pour que Dieu change ton conjoint, ton patron, ta situation financière. Peut-être qu'il ne change pas la situation parce qu'il veut te changer toi au travers d'elle. Il veut forger en toi une résilience que le confort ne peut pas produire. Paul a démontré que le vrai leadership ne dépend pas de conditions parfaites. Il a écrit ses épîtres les plus puissantes, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, depuis une cellule de prison. Le nom de Dieu à sa liberté physique a produit la liberté spirituelle pour des milliards de croyants à travers l'histoire. Ton écharde doit devenir ton témoignage. Si Dieu ne l'enlève pas, c'est qu'il veut s'en servir. Si cette situation persiste malgré tes jeûnes et tes prières, c'est que la grâce disponible est supérieure à la douleur ressentie. Paul a fini sa course en vainqueur, non pas malgré le refus de Dieu, mais grâce à la dépendance que ce refus a créée en lui. Comment ta réaction face au silence de Dieu influence-t-elle ceux qui te regardent ? Une foi qui ne fonctionne que quand tout va bien n'inspire personne. N'importe qui peut louer Dieu quand le compte en banque est plein et que la santé est parfaite. Mais une foi qui dit « Amen » quand Dieu dit « Non », une foi qui adore au milieu de la douleur, c'est cela qui bouleverse ta génération. C'est cela qui prouve que Dieu est réel. L'Écriture dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains chapitre 8. Même le refus, même le silence, même l'écharde. Tout concourt à ton édification si tu gardes la vision de son amour. Action immédiate. Identifie une faiblesse, une limite ou une difficulté que tu as supplié Dieu d'enlever sans succès. Arrête de lutter contre. Arrête de voir ça comme une malédiction. Cette semaine, chaque fois que tu ressens cette limite, déclare à haute voix « Seigneur, ta grâce me suffit. Utilise cette faiblesse pour montrer ta force. Change ta prière de « Enlève ça » à « Glorifie-toi à travers ça ». Chapitre 3. Jésus, le refus ultime pour une victoire absolue. Nous arrivons maintenant au modèle suprême, le sommet de la montagne. Jésus, le Fils parfait, l'agneau sans tache. Nous avons souvent une image lisse de Jésus, mais regardons ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémané. C'est le moment le plus critique de l'histoire de l'humanité. L'humanité de Jésus a percuté de plein fouet le plan divin. La pression était telle que ses capillaires n'ont éclaté. Il a sué des grumeaux de sang. Il savait ce qui arrivait. Pas juste la torture physique des Romains, les clous ou le fouet. Il voyait pire. La séparation d'avec le Père, le poids du péché du monde entier. La souillure de l'humanité sur ses épaules pures, l'horreur absolue. Il a fait cette prière, face contre terre, dans la poussière. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Luc chapitre 22. Cette coupe, c'était la croix. Jésus a demandé s'il y avait un plan B. Il a demandé s'il y avait un autre moyen de sauver l'humanité sans passer par cette déchirure. Il a demandé la vie. Et que s'est-il passé? Le ciel a répondu par le silence. Le Père a dit non à la requête de son Fils unique. Le Père a refusé d'épargner son Fils. C'est terrifiant. Mais c'est dans ce contexte de pression extrême que ta destinée s'est jouée. Jésus aurait pu refuser le refus. Il avait le pouvoir. Il a dit plus tard qu'il aurait pu appeler 12 légions d'anges pour tout détruire. Il aurait pu sauver sa peau. Il aurait pu dire « C'est trop dur, je rentre à la maison ». Au lieu de cela, il a prononcé les mots les plus puissants, les plus difficiles et les plus libérateurs de l'histoire. « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». Il a transformé le nom du Père en une soumission volontaire. Il n'a pas subi la croix comme une victime. Il l'a embrassée comme un vainqueur. La croix était horrible, mais elle était nécessaire. Le Père a dit non à la préservation de la vie terrestre de Jésus pour dire oui au salut éternel de l'humanité. Sans ce non, pas de résurrection. Sans ce non, tu serais encore perdu dans tes péchés aujourd'hui. Voici le principe de leadership de Jésus. Ta soumission totale au plan de Dieu libère la puissance de résurrection. Jésus n'a pas juste accepté le refus, il l'a utilisé comme un tremplin. Il n'a pas vu la croix comme une fin, mais comme le seul chemin vers le trône. Il savait que de l'autre côté de la douleur, il y avait la gloire. Il avait cette vision long terme que nous manquons souvent. Hébreux chapitre 12 verset 2 nous dit « En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisant l'ignominie. » Il ne s'est pas focalisé sur ce qu'il perdait, mais sur ce qu'il allait acquérir. Cette vision s'est accomplie littéralement. Parce qu'il a accepté la coupe amère, la mort a été vaincue. Parce qu'il a accepté le non à Gethsémané, nous avons reçu le oui de Dieu pour notre éternité. Ce que Jésus a perdu sur le moment, il l'a regagné au centuple. Il a reçu le non au-dessus de tout nom. Le leadership sacrificiel de Jésus nous enseigne que Dieu voit la fin dès le commencement. Quand Dieu te dit non à une relation que tu voulais à tout prix, à un poste qui semblait parfait ou à une opportunité en or, c'est qu'il voit une croix cachée que tu dois éviter ou une résurrection supérieure que tu dois vivre ailleurs. Mais voici la clé. Dieu a besoin de ta confiance totale. Il n'a pas forcé Jésus. Jésus s'est offert. Accepter le nom de Dieu, c'est l'acte de foi le plus élevé qu'un chrétien puisse poser. C'est bien plus dur que de chasser un démon ou de prêcher un sermon devant une foule. Dire « que ta volonté soit faite » quand tout en toi hurle. Non, c'est ça la maturité spirituelle. C'est déclarer que son plan est meilleur que tes désirs, même quand ça fait mal, même quand tu ne comprends pas, même quand tu pleures. Sur quel autel Dieu te demande-t-il de déposer ta volonté aujourd'hui? Quel désir légitime dois-tu sacrifier pour voir une puissance de résurrection opérer dans ta vie? Le non n'est pas la fin de l'histoire. Pour Jésus, c'était le début du miracle. Pour toi aussi. L'Écriture dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » 1 Pierre, chapitre 5. Ton élévation dépend de ton acceptation. Tu ne peux pas ressusciter si tu ne meurs pas d'abord à ta propre volonté. Action immédiate. Choisis une situation où tu es en conflit intérieur avec la volonté de Dieu. Mets-toi à genoux cette semaine, seul dans ta chambre, et fais la prière de Gethsémané. Pas une prière religieuse machinale, mais une vraie prière de reddition. Seigneur, je voulais cela de toutes mes forces, mais que ta volonté soit faite, pas la mienne. Je te fais confiance même dans le noir. Lâche prise, ouvre tes mains physiquement, et regarde la paix surnaturelle de Dieu envahir ton cœur. Conclusion. Ton moment d'acceptation est maintenant. Récapitulons une dernière fois. Regarde la fresque que Dieu peint devant tes yeux. David a accepté le refus de bâtir le temple et il a préparé un royaume éternel. Paul a accepté l'écharde dans sa chair et il a reçu une grâce suffisante pour ébranler l'Empire romain. Jésus a accepté la croix et il nous a donné la vie éternelle. Vois-tu le fil rouge ? Chacun d'eux a transformé un nom divin en un impact éternel parce qu'ils ont osé faire confiance à la sagesse de Dieu plus qu'à leurs propres sentiments, plus qu'à leur propre logique limite. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te pose la même question qu'à Pierre sur la plage. M'aimes-tu plus que ceci ? M'aimes-tu plus que tes rêves ? Plus que tes plans de carrière, plus que ton confort, plus que cette relation, plus que ta propre image, Dieu ne te parle pas ici de résignation passive. Il te parle d'alignement stratégique pour ton héritage. La vision n'est pas ce que tu vois avec tes yeux humains, c'est ce que Dieu voit avec les siens. Le nom de Dieu n'est pas un mur contre lequel tu dois t'écraser, c'est un tremplin sur lequel tu dois rebondir. C'est la preuve qu'il t'aime trop pour te laisser te contenter de moins que son plan parfait. Arrête de pleurer devant la porte fermée. Sèche tes larmes. Arrête de douter de son amour. Il a prouvé son amour à la croix. Arrête d'essayer de forcer ce que Dieu protège. Ton moment, c'est maintenant. Ta réponse, c'est aujourd'hui. Ton impact naît de ton obéissance radicale. Lève-toi, essuie tes larmes, remercie Dieu pour les portes fermées et cours vers celles qu'il est en train d'ouvrir. La victoire que Dieu prépare derrière ce nom est infiniment plus grande, plus belle et plus éternelle que la petite victoire que tu avais imaginée. Fais-lui confiance, il sait ce qu'il fait. Cet e-book gratuit vous a béni, vous pouvez bénir à votre tour ceux qui en ont le plus besoin, en devenant acteur de l'expansion du royaume de Dieu. Soutenez le ministère de Yannis Gauthier, les prisons du cœur. Rendez-vous sur le site web www.yannisgauthier.com.